écouter la voix de Dieu, comme nous venons de le chanter, que tout en toi s'apaise, ce n'est pas tellement l'état d'esprit dans lequel on est après avoir écouté, n'est-ce pas, le chapitre 9 du livre d'Esther. Œil pour œil, dent pour dent. Je vais me venger et ma vengeance sera terrible. Et la vengeance, comme vous le savez, est un plat qui se mange froid. Nous avons sûrement déjà nous-mêmes pensé ou prononcé ces paroles après avoir ressenti des humiliations physiques ou morales. S'il est vrai que notre raison d'adulte, ajoutée à notre éducation et à notre place sociale, freine parfois l'accomplissement de ce type de réaction, notre enfance, débarrassée de tout tabou et de toute limite, n'en a jamais été exempte, et nous le savons. Et aujourd'hui, en plus de tout, notre identité chrétienne nous apprend à refuser la violence, à fuir la vengeance et même encore à tendre l'autre joue et à aimer nos ennemis. Mais est-ce vraiment possible? Il est très facile de choisir dans l'histoire de l'humanité des exemples. En dépit des ignominies qu'Adolf Hitler a commises, faut-il le considérer comme enfant de Dieu et frère en Christ? Cette question a bouleversé le pasteur allemand Dietrich Bonhoeffer quand il a décidé en âme et conscience de préparer un attentat contre lui. Il est très difficile pour un chrétien de faire coexister violence et parole divine. Comment aimer ses ennemis? Comment ménageons-nous notre foi, notre intégrité spirituelle ou même notre identité quand de telles contradictions font irruption dans nos vies? Et à contrario, comment pouvons-nous rester des hommes et des femmes d'action quand notre foi nous pousserait plutôt à l'inaction devant la tyrannie? Devons-nous renoncer à ce qui fait le cœur de notre identité pour accomplir ce qu'il nous semble être juste? Voilà ici beaucoup de questions bien délicates, mais qui traversent aussi nos vies. Protestants, nous avons l'habitude de nous référer à la Bible comme source première. Mais bien sûr, nous le savons, la Bible n'est pas dépourvue de violence et de vengeance. Le fameux « tu ne tueras point » et « tendre l'autre joue » s'applique du début à la fin. Mais nous le savons, il y a aussi toute cette part d'humanité qui la traverse. Et Jésus, dans tout ce qu'il a pu dire, faire, aussi, d'une certaine façon, exprimer la violence. Dans le Premier Testament, nous le savons, c'est très clair. Et c'est d'ailleurs souvent pour cette raison que certains pasteurs et prédicateurs rechignent ou mettent de côté ces textes en chair pour le dimanche matin. C'est vrai, on trouve quelques jolis textes, quelques psaumes qui ne chantent que l'amour, et encore, il faut savoir bien les choisir. Le Premier Testament rassemble beaucoup d'histoires de vengeance et une bonne dose de violence. C'est aussi pour cette raison que lorsque des personnes qui découvrent la Bible veulent entreprendre sa lecture, nous leur conseillons souvent de ne pas le faire tout seul. Nous leur offrons un guide biblique, nous leur choisissons quelques textes appropriés pour les accompagner. Et nous pensons alors, si tu ouvres la Bible au hasard, tu pourrais prendre peur. C'est vrai, mais ce n'est pas ce message-là que nous voulons transmettre. La Bible n'est pas un livre sur l'idéal humain, nous le savons, mais sur les relations entre les hommes, les femmes et leur Dieu. L'humain est imparfait, faillible, pour lui-même, pour les autres, et ainsi en est sa relation avec Dieu. Imaginez en effet ouvrir votre Bible pour la première fois vers le milieu, et est tombée sur le chapitre 9 d'Esther. Bien sûr, nous la refermerions aussitôt et la mettrions bien vite au placard. Esther, donc, ce petit livre de l'Ancien Testament qui raconte comment une jeune juive sous la coupe de son oncle Mardoché va réussir à approcher le roi de l'Empire. Elle va devenir la reine en cachant son identité juive et par sa détermination, elle sauvera tout son peuple de l'extermination annoncée. Cet automne, nous avons parcouru ensemble les 4 premiers chapitres et nous nous étions arrêtés au moment où Esther décide, malgré le risque de perdre sa vie, de révéler au roi son identité juive et de plaider pour son peuple. Puis viennent les chapitres 5 à 7. Esther réussit à convaincre le roi. Et là, renversement de situation, Aman, le conseiller véreux du roi, qui par jalousie envers Mardoché, l'oncle d'Esther, avait fait décider l'extermination des Juifs, celui-là est finalement pendu à la place de Mardoché. Et Mardoché, lui, est honoré, prend le pouvoir. Au chapitre 8, le roi autorise les Juifs à défendre leur vie. Et puis, notre chapitre 9. Les Juifs qui étaient quelques chapitres plus tôt, ceux qui devaient être tués, vont eux-mêmes se mettre à tuer leurs ex-supposés exterminateurs, le peuple perse. Bon, nous le voyons bien, ce qui se réalise dans ce chapitre est impensable du point de vue historique, mais aussi inacceptable de notre point de vue aujourd'hui. Comment entendre une telle délectation à décrire l'agression ? Tout est amplifié et décrit avec des détails à profusion. Les verbes évoquant la mort, vous avez entendu le nom des enfants que l'on cite les uns après les autres, les corps exposés au regard de tous, le nombre de tués. Et le roi, lui, il ne fait que prendre acte du nombre de morts et ne réagit même pas au massacre de son propre peuple, autorise même Esther qui le lui demande la prolongation d'un jour des massacres. Que pouvons-nous faire avec de tels récits ? Nous savons que la violence et peut-être la vengeance, mais dans une moindre part, fait partie de nous, qu'elle est une part incontournable de notre humanité. Les ambiguïtés de ces personnages peuvent peut-être nous aider à réfléchir sur nos propres ambiguïtés. Nous sommes chrétiens, mais nous avons aussi une part en nous de violence et de vengeance. Connaissant nos propres ambivalences, comment mesurons-nous l'impact de nos paroles et de nos actes ? Esther, pour qui nous avions de la sympathie au début, souvenez-vous, presque même de l'admiration, vient maintenant à nous dégoûter. Et elle nous révèle finalement que nous n'aimons pas être confortés, confrontés à la part sombre de notre humanité. Nous n'avons pas envie d'entendre parler de mal, de souffrance, de violence. Surtout pas quand nous venons au culte pour repartir avec des paroles de paix et de réconfort. Esther interroge aussi notre regard face au texte biblique. Est-ce que j'ai le droit de choisir certains textes et d'en rejeter d'autres ? Est-ce que j'ai le droit de prendre un verset et d'en barrer un autre ? Comment recevoir un passage biblique de ce type ? Certains chrétiens contestent la présence de ce livre dans la Bible. Et dans certaines Bibles, comme la Tob, la traduction écuménique, un livre d'Esther grec a été rajouté. Il a été traduit en grec 2 siècles plus tard avec des rajouts, des rêves et des prières. Ces traducteurs étaient peut-être un peu comme nous aujourd'hui, mal à l'aise. Un livre violent et sans mention de Dieu, ce n'est pas possible. Alors, on peut essayer d'y ajouter quelques mentions spirituelles. Si vous avez une Tob chez vous, essayez de lire aussi ce livre d'Esther Grec. C'est intéressant. Ce récit d'Esther est une fiction, mais il a été écrit pour exprimer le dysfonctionnement au sein de l'Empire perse, où le pouvoir perse n'est pas en mesure de faire appliquer la justice, et où le seul recours des opprimés est de préserver eux-mêmes leur vie. Ce livre redonne l'espoir aux minorités qui vivent en terre étrangère, que la vie est encore et toujours malgré tout possible. Ce livre peut nous dire « Rien n'est jamais perdu. La vie, même rattachée à un simple fil, est toujours là, quelque part, et elle est appelée à renaître. » À la fin du livre, au chapitre 10, une fête est instituée pour le peuple juif sauvé et victorieux, la fête de Pourim, qui est célébrée encore aujourd'hui à la fin de l'hiver et comparée un petit peu à notre carnaval. Les Juifs célèbrent leur délivrance et leur salut, sans célébrer la violence. Cette fête annuelle est une façon pour le judaïsme de témoigner de sa confiance en un Dieu plus fort que tous les pouvoirs oppressifs. Encore une fois, sans défendre la violence du livre d'Esther, elle témoigne de la confiance absolue d'un peuple en son Dieu, malgré les oppressions subi et répété. Pour nous, ce texte peut nous dire que l'espérance est toujours là, au cœur de la vie, au cœur de la mort, au cœur du mal, au cœur de la violence, au cœur de la souffrance. Que c'est pour cette raison que Dieu s'est donné en Jésus-Christ. Nous venons de fêter Noël, cette fête chrétienne qui nous rappelle que Dieu a choisi de venir parmi nous pour partager toute notre humanité, nos joies comme nos peines, nos réussites comme nos échecs, nos moments de bonheur comme nos moments d'atroce souffrance, nos élans de cœur comme nos dégoûts de violence. Ce Dieu-là, c'est le Dieu de Jésus-Christ auquel nous croyons et à qui nous donnons toute notre confiance. De livres bibliques peut-être inconnus pour vous ou sinon anecdotiques, Esther peut devenir pour nous un compagnon sur nos chemins de foi, un compagnon un peu particulier, un compagnon qui va nous titiller, nous interroger. La belle Esther, comme elle est décrite au début du livre, nous invite à nous poser des questions théologiques fondamentales pour nos vies de chrétiens et nous aide à nous positionner dans notre monde d'aujourd'hui. Souvenez-vous des premiers chapitres. Quel est le but de ma vie? Qu'est-ce qui me fait avancer? Comment voir et entendre Dieu là où manifestement il est absent? Que faire de mon identité de chrétien? Où est mon courage d'être? Et enfin, quoi faire avec cette violence qui m'habite? Comment la concilier avec ma foi? Voilà quelques questions offertes par Esther et auxquelles nous n'aurons jamais fini de répondre, mais qui peuvent accompagner nos chemins. Vous savez, j'aime bien dire qu'un chrétien est toujours en marche, jamais arrivé au bout de ses questions. Esther est une excellente source pour nous garder bien en forme. Malgré qu'une des significations du nom Esther soit cachée, et malgré qu'aucune mention de Dieu ne soit faite dans ce livre, il est bien sûr qu'à la fin de notre parcours, Dieu n'aura pas été absent de nos partages. Il est le Dieu de nos vies. Il est là, avec nous et parmi nous, chaque jour. Amen.